France Inter.
Vous goûtez comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
La 40e édition du Festival du Livre Gourmand de Périgueux, cette année sous la présidence d'honneur du chef 3 étoiles Pierre Gagnaire, entouré de 80 chefs, d'éditeurs et d'auteurs.
Alors, je suis dans le Périgord.
Toujours autour de verre de l'amitié, donc ça fait qu'on boit beaucoup de verre et qu'après on se fait beaucoup d'amis. Donc voilà, c'est le Périgord. À Cadouin, on a une petite bibliothèque avec des livres qui sera mis en place, avec beaucoup de livres engagés qui défendent les plats, les territoires. Et ça va ressembler à la Dordogne.
Dans le Périgord noir, le dernier refuge des loups.
Dans le Périgord, vous foutez maillot, où va-t-on dîner?
On ne dîne pas.
Comme on a de la chance cette semaine de dresser le couvert à Périgueux. Ah oui, on n'est pas tout seul. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup pour votre chaleur humaine et votre enthousiasme. Merci d'être venus aussi nombreux, le théâtre de l'Odyssée à Périgueux est plein comme un œuf. Nous sommes en direct au cœur du Festival du Livre Gourmand, le grand rendez-vous annuel de l'édition culinaire qui fête cette année ses 20 ans. Joyeux anniversaire, Festival de Périgueux! Ça fait la troisième fois que nous venons en bande à Périgueux, 2021, 2023, 2025 cette année, et à chaque fois je peux vous dire qu'on ne se fait pas prier. Il y a toujours évidemment l'ambiance joyeuse du festival où l'on retrouve tous les amis auteurs et autrices. Il y a toujours le Périgord, qui n'est quand même pas, on va le voir, le terroir le plus discret de France. Les tentations sont nombreuses. Il y a le bonheur et l'honneur de recevoir un homme extraordinaire, qu'on peut définir comme un chevalier du bien manger. Vous allez comprendre pourquoi il est connu d'ailleurs comme le loup blanc à Périgueux, vous le connaissez peut-être mieux que nous, c'est Jean-Marc Mouillac, bonjour.
Bonjour.
Oulala, quel accueil. Quelle star Jean-Marc, merci d'être avec nous pendant toute cette émission en direct. Et enfin, au Festival du Livre Gourmand de Périgueux, il y a évidemment le plaisir de voyager avec ma bande, Elvira Masson, Alessandra Pierini, Stéphane Solier, Jérôme Gagnès. Salut les copains!
Bonjour à tous!
Ravi de vous retrouver avec notre invité, nos chroniqueurs et nos chroniqueuses. On va parler à la fois livres de gastronomie, recettes du cru, vin de destination non identifiée pour l'instant, et bien manger pour tous. Un menu périgourdingue à Périgueux.
France Inter, François-Régis Caudry, on va déguster.
Nous sommes au cœur de ce festival depuis vendredi, un rendez-vous incontournable du livre de gastronomie où se sont donnés rendez-vous quand même plus de 100 auteurs, chefs cuisiniers, gourmands, passionnés, un public très nombreux de gourmets. On me dit que toutes les dédicaces des auteurs et des autrices font carrément sale comble. Il y a des débats, des démos culinaires. Cet événement se tient donc jusqu'à ce soir. 20e anniversaire oblige en plus. Il est présidé cette année par un grand monsieur de la gastronomie, Pierre Gagnaire, que vous connaissez sans doute, le chef 3 étoiles du Balzac à Paris. Ce festival, c'est aussi l'occasion de croquer Périgueux et sa région par tous les bouts et tous les goûts. On attaque cette émission par quelques coups de cœur comestibles. À vous l'honneur, Alessandra Pierini, une très jolie spécialité que vous aimeriez nous faire partager.
Bah oui, parce que depuis que je viens à Périgueux, j'ai vraiment un rituel bien rodé. C'est pousser la porte de la Maison Requier, cette jolie boutique du centre-ville que tout le monde ici à Périgueux.
Levez la main, ceux qui connaissent. Ah, bah c'est pas compliqué. Ah non, il y a une bonne moitié de main qui se lève quand même.
Ah bah oui, mais c'est une boutique qui propose et qui est dans le centre-ville depuis 2004 tous les produits de leur ferme familiale qui est située à Coursac, qui est juste à côté. On y trouve du foie gras bien sûr, du pâté, des plats cuisinés, des volailles à rôtir, mais surtout des magnifiques figues au foie gras.
J'en ai une sous le palais.
Et voilà,
ça
elles
fond.
Sont juste là devant. Vous les avez dans les assiettes. Ce sont des grosses figues qui viennent du sud de la France, qui sont dodues, fondantes, confites. Juste ce qu'il faut. Et au cœur, il y a levé une grosse noix de foie gras de canard mi-cuit avec une texture fondante qui glisse, qui caresse. La figue un tout petit peu sucrée. Il y a le velouté du foie gras. Voilà, je vous laisse
vous
dire ce que vous en pensez.
Un petit peu parce que la Maison Requier est à Marsannay et à Marsannay...
Marsannay, c'est par chez vous, hein?
Ben ouais, il y a une petite histoire là-bas de la première école 100% bio de France.
Et oui, évidemment, que vous avez pilotée. Pendant de nombreuses années, vous êtes un pionnier, on va le voir, de la restauration collective scolaire 100% biologique à Marsannay, à ne pas confondre avec un village cher à Jérôme Gagnès du côté de la Bourgogne. Hein. Ça oui, s'écrit pas, ça s'écrit pas pareil d'ailleurs.
Non, ça s'écrit pas pareil. Mais on pourrait confondre.
Marsannay, donc, là, c'est...
Mais c'est on le boit moins à Marsannay, mais mais le Marsannay à Y.
Oui,
Marsannay.
Alors à Y, ça c'est pour la Bourgogne.
Ouais. Et EX en Dordogne.
Voilà. Donc il y a moins de Pinot Noir chez vous qu'à Marsannay en Bourgogne.
Absolument. Ouais. Voilà. Vous nous rappelez les références de cette maison et l'adresse, Alessandra?
Bien sûr, c'est la Maison Ruquier, 8 rue de la Sagesse à Périgueux.
Pour les figues farcies au foie gras notamment, Stéphane Saulier, un coup de cœur fromager.
Oui, alors Cabécou, Tom, chèvre frais, chèvre sec, c'est comme ça que nous est apparu hier matin avec Alessandra le stand de Laetitia au marché des producteurs de Périgueux.
Oui.
Et au milieu des bûchettes, j'ai été attiré par un petit monstre qui semble venu du paléolithique. Alors vous me connaissez, je me suis transformé en paléontologue. Et voici sur le plateau donc une bûche nommée à point nommé préhistorique. C'est une bûche qui a un an d'affinage. Du mordant, du piquant, peut-être même de l'ardence, vous me direz. Heureusement qu'on a mangé un petit peu de figues au foie gras avant. Mais le format bûche permet quand même un cœur...
Ah, ça klaxonne, ouais.
Ça klaxonne. Hein.
Il remonte sans doute à la préhistoire, en effet, en termes d'affinage.
Un an d'affinage.
Ça pique bien, quoi.
Que c'est qu'un an. T'es sûr que c'est qu'un an?
C'est qu'un an. Hein.
C'est très 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 long en bouche. Hein.
C'est très long en bouche. Alors heureusement, quand même, je vous ai apporté la bûche.
C'est bon. Ça dure tour.
L'état premier, l'enfance de l'art. Hein. Vous avez la même bûche, mais en mi-frais, plus douce, avec quand même le caractère affermi du chèvre. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi l'histoire. Laetitia est productrice depuis 2011. C'est une artisane fromagère qui travaille le lait cru des chèvres que son père élève à une quinzaine de kilomètres de Périgueux, à Miac d'Auberoche. Voilà.
Très bien. Eh bien, écoutez, ça s'appelle Les Petits Chèvres, c'est ça?
Les Petits Chèvres, la fromagerie Les Petits Chèvres à Miac d'Auberoche.
Et j'ai goûté la bûche mi-sèche. Pour le coup, elle est très, très bonne, moelleuse, onctueuse, avec un goût lactique très profond.
Il faut la goûter avant le paléolithique.
Oui, en effet.
Qui est préférable.
La bûche préhistorique, je vais un peu casser la gueule, mais c'était délicieux.
Largement même.
Chers amis, c'est à mon tour. Et moi, je vous ai versé un petit coup de cœur mystère dans vos verres à pied. La personne qui en est l'auteur m'a dit, il faut que ce soit dans un verre à pied en verre. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire comme ça? Attention, vous trempez vos lèvres délicatement, j'ai oublié de vous le dire. Jean-Marc, qui peut me dire quelque chose?
Moi, je sens entre le réglisse et le fenouil sauvage.
Je vais dire au professeur de français que c'est plutôt la réglisse.
Oui.
Si pardon. Je peux me permettre. Non, je plaisante.
Ouais, moi, j'étais entre l'anis, le cumin.
Oui, la badiane un peu, non?
La badiane,
bravo, vous y êtes. Jean-Marc.
Moi, j'ai l'impression d'avoir un pastis.
Ah, eh ben, il a lâché le mot. Eh oui, on parle bien de cette famille d'apéritifs anisés. Vous pouvez me citer d'autres plantes bien de chez nous qui pourraient être présentes dans cet alcool distillé?
Du fenouil.
Bien joué, fenouil.
Ça, c'est Stéphane qui disait fenouil.
J'ai dit le fenouil sauvage.
Très bien. Moi, je disais la fenouil, mais il paraît que c'est le fenouil. Le fenouil.
D'autres herbes du jardin?
Cumin, carvi, non, pas de choses.
Ah, alors fenouil, on est dans la même, ouais, dans cette ça, même famille des apiacées.
Ouais.
Plutôt herbes du jardin, c'est ça?
Oui.
C'est végétal, oui. On sent du végétal.
Il n'y a pas du thym?
Non.
Non, de la sauge, de l'origan.
Non plus, c'est compliqué. Mais est-ce que vous aimez?
Oui, c'est très bon.
Vous êtes d'accord pour dire que c'est un pastis ou pas?
Bah oui.
Parce qu'il ne faut pas aller jusqu'en Provence pour goûter cette boisson. Il faut aller à une grosse quarantaine de kilomètres à l'est de Périgueux, à Montignac-Lascaux, entre causses, champs et forêts de châtaigniers. Et là, vous rencontrez un garçon qui s'appelle Loïs Gauthier, de la distillerie de l'Orte. Alors, je lui ai tendu le micro. Et cette boisson mystère, écoutez bien la liste des plantes, cette boisson mystère, c'est...
C'est le pastis de nos jardins. Un pastis qu'on distille avec ma sœur Nolwenn dans la ferme de nos grands-parents dans le Périgord, qui est distillé à partir de plantes qu'on cultive, de l'anis, du fenouil, de la verveine, de la lavande, de la camomille, et des épices également, de la badiane. Et pour la douceur et pour la gourmandise, on y ajoute du miel du Périgord, du miel de brantôme. C'est un pastis à déguster sur glace ou avec un petit trait d'eau. À votre santé.
Et il m'a confirmé, cher Stéphane, qu'il y a bel et bien un peu de réglisse dans ce pastis de la distillerie de l'Orte. C'est vraiment un très beau coup d'éclat, hein, quand même, de Louise Gauthier et de sa sœur Nolwenn. On peut les applaudir. Ils sont originaires du Périgord. Leur histoire est dingue. Ils ont repris la ferme de leurs grands-parents. Ils y ont installé leur distillerie. Ils travaillent dans le respect du vivant avec un alambic à énergie solaire. Il paraît que c'est le premier de France. De nombreuses plantes cultivées sur place en bio. L'utilisation de l'eau de source. Le recyclage de l'eau qui est utilisée pour le refroidissement des cuves de l'alambic. Vous savez qu'il faut utiliser de l'eau pour refroidir toute cette machine en cuivre. Eh bien, elle est utilisée ensuite pour réchauffer la serre, où seront bientôt abrités citronnés, citronniers, cédras, yuzu, etc., orangés, parce qu'ils font aussi des jeans. Et cette belle histoire de reconversion et de transformation d'une ferme périgourdine est racontée par Louise Gauthier dans un récit de vie très touchant, publié ces jours-ci par les éditions Fanlac, une maison d'édition installée dans le Périgord noir. J'ai suivi avec beaucoup d'émotion les aventures de Loïs, qui raconte avec une plume très sensible, souvent drôle, son projet de distillerie, leur emménagement dans la maison familiale, les travaux, les périodes de doute et de découragement. Il y a notamment cet épisode incroyable, c'est la visite d'Elisabeth, une magnétiseuse, sourceuse, que connaît bien la sourcière, plutôt, hein, oui, que connaissait bien sa famille et qui lâche au narrateur que son lit dans la maison est installé en plein au-dessus d'un nœud tellurique et que c'est normal s'il est très très fatigué et qu'une des chambres de la maison est occupée par un esprit qu'il ne vaut mieux pas trop aller déranger. Voilà. Oui, les fantômes rôdent dans les maisons du Périgord, vous le confirmez ou pas? On s'attache avec beaucoup d'empathie aux protagonistes de cette reconversion à la campagne qui n'est pas un long fleuve tranquille. Lisez Une distillerie sous les noyers. C'est le titre de ce récit de vie signé Loïs Gauthier aux éditions Fanlac. Et la distillerie de l'Orte a un stand au cœur du festival. Allez goûter leurs produits distillés, vous verrez, c'est des boissons absolument magnifiques. C'est Laurent Thomas qui réalise depuis Paris l'émission avec Céline Guérébi à Paris et Franck Luton à Périgueux. Merci à Lionel Béchadergue d'ici Périgord pour assurer notre direct sur France Inter. Notre programmateur musical Joubacca nous sert tout chaud. Helping Hand de Robert Finlay. Bienvenue à Périgueux sur France Inter. À Périgueux avec notre invité Jean-Marc Mouillac. Merci beaucoup, cher public, d'être là. Jean-Marc Mouillac, Je voulais vous lire un SMS que j'ai reçu il y a quelques jours de la part de quelqu'un que vous connaissez bien. Bonjour François Régis, je suis tellement content que Jean-Marc Mouillac soit ton invité. Ce garçon est pour moi le cuisinier qui apporte le plus au bien manger pour tous. Il devrait être nommé meilleur chef de France et présenté comme un modèle. Sa démarche permet de réconcilier les Français, les jeunes et les moins jeunes, les campagnes et les villes, les riches et les plus démunis, les véganes et les viandards. Tous les politiques devraient l'écouter pour être élus demain, bien amicalement, signé Olivier Rollinger. Vous l'avez rencontré quand, Jean-Marc Mouillac, Olivier Rollinger? C'était dans le cadre du festival de Périgueux?
Non, c'était un peu avant. Il est devenu le parrain du collectif au moment du Covid, en 2021.
Le collectif Les Pieds dans le plat, que vous avez donc fondé en 2013, et qui est un collectif de restaurateurs, de cuisiniers, de cuisinières.
Cuisiniers, diététiciennes, de philosophes et d'élus aussi, qui se sont engagés auprès de nous.
Et qui œuvrent pour une alimentation éthique et responsable, voilà, une révolution. En Dordogne et partout en France.
Oui, 200 adhérents au niveau national.
Vous avez fait des petits, hein, et tout ça est parti d'ici, incroyable. Vous êtes Jean-Marc Mouillac, pionnier des cantines bio, formateur en alimentation durable et locale, bon marché, anti-gaspillage, cofondateur, on l'a vu, du collectif Les Pieds dans le plat, qui a déjà d'ailleurs sévi lors de ce festival. Moi, personnellement, c'est dans le cadre de l'édition 2023 du festival que je vous ai rencontré. Vous aviez fait un dîner exceptionnel et en même temps tout simple, touchant d'humilité et de bonté, j'ai envie de dire, dans le cadre du festival, main dans la main avec Olivier Rollinger, pas mal d'équipes de l'école hôtelière.
Oui, mais aussi grâce à l'engagement des élus de la ville de Périgueux qui ont fait confiance à Olivier de nous laisser faire le repas pour les auteurs. Et nous, on voulait toucher tous les auteurs pour se réapproprier l'alimentation sur tous les territoires.
Absolument. Et vous êtes depuis peu dans une nouvelle vie, même si évidemment vous ne pouvez pas quitter vos convictions et vos missions. Mais on a eu la chance, en bande, d'aller dîner hier soir. Arrivé vers 19h30 dans un lieu majestueux, les murs sont classés au patrimoine de l'UNESCO. C'est une abbaye magnifique du XIIe siècle. Une cinquantaine de minutes pour y aller, hein. Des renards qui traversent les routes, des chevreuils. Bref, on a failli ne pas arriver vivant. Mais on a débarqué à l'auberge de Cadouin. Ouais. Qui connaît? Oh là là, ça fait déjà du monde, parce que ça n'a ouvert que depuis 4 mois et ce fut une expérience extraordinaire.
Oui, mais on a le pastis de l'Orte, si on ne veut pas se tromper de route. Et ça,
avec modération, attention.
Oui, mais c'est important.
Et oui, bien sûr.
Ah non, elle est restée à l'auberge, modération.
Non. S'il vous plaît.
Elle a été bloquée.
Merci, Pierre.
Jean-Marc, vous l'avez retenu en otage.
Quand on prend la route, on fait évidemment très attention.
Il y a des couchages.
Voilà, alors ça, c'est sûr qu'il y a des couchages. Il y a même une magnifique auberge de jeunesse. Non, mais franchement, les amis, l'auberge de Cadouin, moi, j'en attendais beaucoup. On a une ardoise quand même. 19,50€ pour entrée, plat, dessert, avec une cuisine simple, généreuse, qui fait évidemment de nombreux clins d'œil au répertoire local. Et puis votre sourcing, Jean-Marc.
Ben, ça, le département, grâce à Germinal aussi, le président du département, il m'a mis au service agriculture. Donc j'ai quelques réseaux et donc 27 producteurs sur le territoire, autour de Cadouin, de l'auberge. Le tout, c'est
100% bio.
Ah oui, non, mais parce que là, après, on peut pas jouer à tout. Il faut, si on n'avait pas fait l'école de Marsannay en 100% bio, si j'avais mis 2% de conventionnel, je pense qu'il se serait pas passé ce qui se passe et l'enchaînement qu'il y a eu. Donc il y a des choses on peut lâcher, d'autres il faut pas lâcher. Et bravo aussi à tous les élus du Périgord qui lâchent pas sur le 100% bio. Parce que derrière, bien sûr, c'est un acte politique et des fois on prend des coups, on charge, mais il faut pas lâcher parce que derrière c'est la santé, c'est le territoire et on voit bien dans le bazar qu'on est, il faut tenir là-dessus.
Parce que vous avez commencé en effet cuisinier dans la restauration collective scolaire au lycée Léonard de Vinci à Périgueux, où vous avez fondé en 2008, faut-il le signaler, la première cantine bio de France, quand on vous dit que le monsieur est un pionnier à l'échelle nationale. Et vous avez ensuite été formateur en cuisine bio, de Romainville à Bidart, au Pays Basque. Après, vous avez fait des petits un petit peu partout. Il y a eu Marsannay, évidemment, hein, où vous avez poursuivi votre aventure. Qu'est-ce que ça fait comme ça de passer de la restauration collective à un vrai restaurant, une auberge, où vous recevez des clients de toute génération, de tous âges?
Mais aujourd'hui, on a fait la preuve que ça coûtait pas plus cher, que c'était possible et que ça reliait le territoire et que manger son territoire, ça pouvait faire que du bien à la société. Mais pour moi, Cadouin, c'est aller toucher les particuliers et que les particuliers attendent pas qu'il y ait encore une nouvelle bactérie comme le Covid et qu'on se réapproprie tout ce qu'on peut sur notre territoire pour pas attendre ces moments catastrophiques. Et on peut se nourrir sur les territoires. Il suffit, en 3 ans, on fait n'importe quelle conversion de n'importe quel territoire sur un pays comme la France.
Et on s'est régalé. Allez, Alessandra, un petit exemple. Vous avez choisi quoi hier?
J'ai choisi la galette de sarrasin avec un sarrasin local, une compotée d'épinards, avec de la tome de brebis de Dordogne, l'œuf bien sûr pour une galette complète avec un accompagnement de salade verte toute simple mais délicieuse avec un goût très intense de sarrasin, pour moi tout ce que j'aime.
Et elle s'est absolument régalée, je la voyais, oui. Alessandra, elle était à ma droite. Jérôme?
Ah, une langue merveilleuse qui était fondante.
Langue de
veau?
Ah, j'ai cru, d'accord. Non, non, mais...
Non, s'il vous plaît. Alors, pas vraiment, non, pas ce genre de blague. Hein. Non, une langue absolument délicieuse, langue sauce piquante. Elle était fondante, elle était admirablement cuite. C'était très bon, très très bon.
Stéphane?
Ah, moi, j'ai adoré les abats. J'ai mangé du foie et j'ai pioché dans l'assiette centrale sur les riz de veau.
Moi aussi.
Bonheur.
Elvira?
Du riz de veau au riz au lait avec un pas, il était vraiment remarquable.
Ça s'écrit pas pareil.
Crémeux, délicieux. Et puis j'ai adoré aussi le gâteau aux noix, comme ça un peu collant, un peu sticky, avec un goût de noix très prononcé.
Mais c'est quoi le secret? C'est quoi le secret de ce riz au lait complètement fou? Jean-Marc?
C'est Lolo qui est là dans la salle.
Bravo Lolo! Citez votre équipe.
L'accompagnement était facile. Il y a 20 ans, j'ai eu en formation Florence Nico qui avait une cantine 100% bio et glisse neuve de verre. Donc je l'ai débauché de verre pour qu'elle change un petit peu sa vie et qu'on aille voir aussi dans le privé. Nous, qu'on a été fonctionnaires toute notre vie, on voulait voir et se mettre à payer l'URSSAF. Donc voilà, on a voulu ça. Et Lolo, c'est pareil. Hein, lui, il a été 7e meilleur apprenti de France en 97. Mm-hmm. Et puis après, il a été emporté par tout ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire la Sodexo, Elior et compagnie. Donc il s'est détruit un petit peu sa technicité culinaire. Et puis je l'ai rencontré dans un collège à Montignac où tout de suite, dès qu'il s'est remis à cuisiner, il a eu la banane et il a eu envie de plus revenir en arrière. Il m'a dit, mais on a le droit de casser des œufs? J'ai dit, ouais, on a le droit.
Allez voir ce qui se passe, très sincèrement, à l'auberge de Cadouin, à côté de Périgueux. Précisons d'ailleurs que le riz au lait, je demandais hier à Jean-Marc, mais dans tes produits, lesquels ne sont pas vraiment locaux, il y a quelques exceptions. On ne cultive pas encore de riz, évidemment, en Dordogne, ça pourrait venir. Vous me dites, non, il faut de l'eau, hein, pour le riz. Ouais. Donc c'est pas gagné. Mais en tout cas, le riz au lait, ça fait partie des quelques 5% de produits qui ne sont pas locaux. Mais en tout cas, quelle expérience. Et on a commencé ce dîner par un rituel, j'ai envie de dire, qui est arrivé dans une soupière chinée. On a soulevé le couvercle, ça sentait bon l'ail. Qu'est-ce qu'on a dégusté, à votre avis, cher public? Ah, vous l'avez, le Tourin, évidemment, le Tourin. Simplement, on a un problème avec l'orthographe de Tourin. Alors là, je me tourne vers le professeur de lettres, Stéphane Saulier. Tourin, on peut dire que le Tourin a l'orthographe un peu versatile.
Ah oui, là, faute d'une tradition lexicographique, on peut même dire que l'orthographe est flottante, totalement flottante.
Pas flotteuse, j'espère.
Flotteusement, en tout cas, celui d'hier, non, certainement pas. Le Larousse gastronomique précise bien que Tourin peut s'écrire T-O-U-R-I-N, T-O-U-R-A-I-N, T-H-O-U-R-I-N, T-O-U-2-R-I-N.
Mais que se passe-t-il?
Touril.
Depuis quand la langue française est souple?
Ah, ben, elle est vraiment souple en région, hein, on peut le dire. Touril en Rouergue, Touri en Béarn. Bref, c'est un joyeux bordel. Alors, l'étymologie devrait un tout petit peu nous aider, hein, puisque le mot vient de torere en latin, qui veut dire griller, brûler, passer sous le feu. Donc on devrait écrire Tourin, T-O-U-2-R-I-N. Seulement, en franco-provençal, torare est devenu tourare, qui veut dire cuire sur le feu. Mais aussi, j'ai adoré cette évolution, se tourouilla ou se tourilla, se chauffer, se câliner devant un bon feu. Ça me rappelle cette tradition du Tourin, vous la connaissez tous dans le grand sud-ouest, le Tourin des noces, hein, que l'on apporte aux jeunes mariés la nuit de noces pour leur donner un peu d'énergie.
Le Tourin, vous choisissez quelle orthographe, Stéphane?
Pardon ?
Vous choisissez quelle orthographe ?
L'orthographe étymologique, allez, on va dire T-O-U-2-R-I-N, mais peu
importe. T-O-U-2-R-I-N. Il y a Nicolas qui a goûté ce fameux Tourin dans notre public. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors, définition d'abord pour toute la France du Tourin, vous diriez quoi ?
Alors déjà, d'aspect, c'est onctueux, c'est un velouté, c'est blanc. On voit qu'il y a une liaison à l'œuf, ça c'est sûr. Forcément de l'ail. Et j'ai cru comprendre qu'on rajoutait de l'oignon, si c'est une erreur de ma part.
Ah.
En tout cas, j'adore l'ail, c'est super
Est-ce
bon.
Est-ce que vous trouvez ce Tourin réussi ? Mettez-lui une note sur 10.
Alors, la perfection...
C'est l'école des l'animateur sympa devant Jean-Marc Mouillac.
La perfection, je crois qu'elle n'existe pas, mais je vais dire 9.
Voilà. Oh là là, pas mal. 9 sur 10 pour Jean-Marc. Qu'est-ce qu'il y a dans votre Tourin, Jean-Marc ? Merci beaucoup, Nicolas.
Je vous en prie.
Mais quand on est du Périgord noir, il n'y a pas d'oignon.
Voilà, ça c'est dit. Ça c'est dit et c'est bien dit.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Donc, de la graisse de canard, voire, moi, je préfère de la graisse d'oie, de l'ail, singer avec un peu de farine.
Oui.
Après, on mouille, on laisse bouillir un petit moment, vraiment que l'ail amène ce goût bouillon. Et après... le jaune d'œuf, on met le blanc d'œuf, on bat tout ça si on est nombreux, si on n'est pas nombreux, ben moi j'aime bien laisser les blancs entiers pour les voir dans l'assiette et se les partager en tête à tête. Voilà. Et après sinon, et ben on lit avec le jaune d'œuf et une cuillère à soupe de vinaigre. Et maintenant on peut rajouter un peu de crème fraîche.
Mais quel régal. Ah, il y en avait un peu de crème fraîche ?
Un petit peu pour que l'œuf se...
Crème fraîche du coin ?
Non.
Ah, bon. On vous en veut pas. En tout cas, ce Tourin est délicieux. On peut croiser des Tourins tomatés.
Oui. Et aussi, on peut faire du Tourin anti-gaspillage avec des fans de radis. Ça marche très, très bien. Avec de l'oseille. On peut faire plein de sortes de Tourins. Je crois que toutes ces recettes, c'était des recettes aussi anti-gaspillage aussi.
Absolument.
À la base.
Du Tourin, vous avez grandi au Tourin, puisque vous êtes d'origine périgourdine, évidemment. Jean-Marc Mouillac, en tout cas, celui-ci, j'ai peut-être pas votre... expérience en termes de banc d'essai Tourin, mais celui-ci me plaît beaucoup et la recette est sur franceinter.fr à la page on va déguster. Est-ce que ce Tourin va s'entendre avec les cuvées que nous a apporté Jérôme Gagnès? Suspense.
On va déguster sur France Inter.
Oh! Bravo!
Ah, c'est un des plus beaux.
Il est réussi, hein, ce plop.
Tout d'abord, avant de commencer, on a goûté hier avec ce Tourin, parce que j'avais une expérience très ancienne, d'accord, entre des vins botrytisés, c'est-à-dire des vins liquoreux de pourriture noble, et l'ail. Et vous avez à votre carte, Jean-Marc, le domaine Telet-Marsalais, Montbazillac, cuvée Paulette 2012. Je ne sais pas qui est cette Paulette, mais elle m'est extrêmement sympathique. Parce que ce Montbazillac était une merveille.
C'est vrai.
Et ça s'accordait très très bien avec l'ail de ce Tourin. Voilà, cela est dit. Nous allons évidemment, puisque nous sommes à Bergerac, eh bien on va goûter du Bordeaux. Non. On goûte évidemment du Bergerac.
Il fait de la provoque.
On goûte du Bergerac, cette appellation qui est située autour de la ville de Bergerac, de part et d'autre de la vallée de la Dordogne. C'est une appellation qui fait à peu près 7000 hectares, donc je donne un petit peu la carte postale pour nos auditeurs. Il y a beaucoup d'appellations, il y a les appellations qui font du rouge, du blanc, du rosé, et puis il y a des appellations qui font du moelleux. Tout ça, vous le trouverez sur le site de l'émission, j'ai fait un petit topo complet pour ceux que ça intéresse. Je vous parle aujourd'hui de deux vins que j'ai beaucoup aimés. Je suis allé à Bergerac pour goûter, on a goûté une petite centaine de vins, et on n'est pas venu pour beurrer les sandwichs, hein, on a bossé. Et cette petite centaine de vins sont sortis, un certain nombre de vins, et notamment, en particulier, deux domaines que j'ai beaucoup aimés. Un domaine qui a été repris tout récemment, qui est le château La Roberti. C'est Juliette Sbrana qui a repris ce domaine. C'est un domaine qui est un domaine de 9 hectares, qui est situé à Rouffignac de Sigoulès. Et Juliette, elle fait des très jolis vins. Vous avez dans votre verre, François Régis et tous les amis du plateau, vous avez un rouge qui s'appelle tout simplement Château La Roberti. Bergerac, c'est un 2022, 70% de Merlot, 30% de Cabernet Sauvignon, l'assemblage classique bergeracois. J'aime beaucoup ce vin, j'ai beaucoup aimé ce vin parce que il est précisément d'un parfait classicisme. C'est-à-dire qu'il y a un peu la structure du Cabernet Sauvignon, il y a un joli enrobage du Merlot, il y a un fruit qui est très en avant, il y a un élevage qui est très habile parce que l'élevage ne couvre pas du tout le vin. Au contraire, il met en exergue ce fruit. Et voilà, un Bergerac qui est parfaitement dans son appellation, dans son millésime. Donc bravo Juliette Sbrana, parce que c'est un très joli travail. Vous trouverez sur le site de l'émission toute la dégustation que j'ai faite chez elle. Il y a des très très jolies cuvées, des mon Basilic merveilleux et un énigmatique rouge moelleux qui s'appelle MR Mister Fantôme, qui est une petite merveille, et c'est très rare de réussir des rouges moelleux. Donc je le signale. Enfin, vous avez dans votre autre verre un blanc. Celui-ci, c'est le domaine Albert de Conti. C'est un Bergerac blanc. Alors, Albert de Conti, j'ai parlé il y a 2 ans d'un autre domaine de Margaux de Conti qui s'appelle la Tour des Gendres. Guillaume de Conti, c'est le cousin de Margaux. Et eh bien, il faut bien dire que cette famille de Conti, ils sont pas manchots quand il s'agit de faire du vin. Parce que les deux domaines sont remarquables. Et cette fois-ci, nous sommes donc chez Paul et Guillaume de Conti, avec Yann Lecoindre, qui est leur maître de chai. Et alors, eux, ils ont repris un domaine, qui s'appelle le domaine Albert de Conti, et ils nous livrent ce vin tout à fait étonnant, qui s'appelle Contine Périgourdine, qui est un pur muscadel. C'est très rare, c'est un cépage autochtone, qu'on trouve aussi à Bordeaux, mais de la région du Sud-Ouest, et c'est un vin qui a une sensualité, des arômes d'amandes, des notes de fleurs. C'est un vin qui est tout à fait étonnant, que j'aime beaucoup, qui est très rare, et qui est admirablement réussi par Guillaume, Paul et Yann. Donc bravo à eux. Je reviens sur la première cuvée, je n'ai pas dit le prix. Le Bergerac de Juliette, Château La Robertie, il est à 12 euros.
C'est intéressant.
Un prix cadeau, parce que cette qualité-là, ce prix-là, c'est une merveille, c'est un vrai vin artisanal très joliment fait. Mm-hmm. Et puis, la Contine Périgourdine, ça s'écrit Contine, Conti-N-E, jeu de mots, Contine Périgourdine, pure muscadelle, il est à 18 euros, domaine Albert de Conti. Je ne peux que vous recommander de vous précipiter ventre à terre, toutes affaires cessantes, dans ces deux domaines, pour les rencontrer, goûter leur vin et repartir avec un Smirnoff de chacun des domaines.
Merci, cher Jérôme. Jean-Marc Mouillac, est-ce que vous les connaissiez, ces cuvées ou ces domaines ?
Oui, tout ce qui est en bio sur le Bergerac, je les connais. Donc, si Pierre, t'as besoin d'un coup de main, l'année prochaine, je suis là. C'est pas
et d'ailleurs, il y a quelques cartouches hein, sur la carte des vins de l'auberge de Cadouin. Pas loin de Périgueux.
Ben oui, donc.
Et notamment le domaine Combriac que j'ai eu le bonheur de présenter dans cette émission il y a quelques mois, ah, dont j'aime beaucoup les
vins. On peut retrouver votre chronique en podcast.
Exactement.
Le Festival du Livre Gourmand de Périgueux, ce sont aussi des prix qui récompensent des livres de gastronomie de l'année. Et d'ailleurs, sur cette scène du théâtre de l'Odyssée, ont été remis les prix suivants. Alors le prix Lamazie, évidemment, mythique prix du nom de cette cuisinière qui signa en 1929, La bonne cuisine du Périgord. Eh bien, le prix Lamazie récompense cette année le très beau livre de Farah Keram, Cuisine d'Afrique du Nord chez Gallimard, qui est une très belle monographie sur les cuisines du Maghreb. Il y a aussi le prix Dame Tartine qui récompense un livre de gastronomie écrit pour la jeunesse. Cette année, c'est Sacré Banquet de Justine Gauthier et Sarah Loulandeau aux éditions Thierry Magnier. C'est ça aussi l'intérêt de ces prix, c'est qu'ils mettent en lumière des livres dans des maisons d'édition un peu plus modestes en termes de taille, et ça fait du bien. Et puis, il y a également une mention spéciale du jury, Alessandra, parce que vous l'aviez repéré, ce bouquin.
Tout à fait, j'ai eu le bonheur de discuter hier avec Blandine Giambiasi, qui est l'autrice du « Le goût d'un fleuve
oui. »,
La Charente, aux éditions Nage de l'Ours.
Ah, il y a des fans.
Ah oui, ça m'a vraiment beaucoup touché, ce livre, très original et très poétique.
Personnellement, je ne le connais pas, mais je vais m'y intéresser de près, ça je peux vous le dire. Et puis il y a aussi un nouveau prix cette année au Festival du Livre Gourmand de Périgueux, c'est le prix de l'engagement qui récompense un ouvrage, comme son nom l'indique, engagé, notamment dans l'alimentation durable. C'est un livre pour lequel vous aviez eu un vrai coup de cœur, Elvira, que vous aviez même chroniqué à ce micro il y a quelques semaines.
Oui, il s'agit du Sens du bétail, vous ne mangerez plus jamais de la même façon, aux éditions Flammarion. Son auteur est Ulysse Thévenon et c'est véritablement une plongée sidérante, édifiante au cœur de l'élevage industriel en France. C'est vraiment un travail d'enquête remarquable. 3 ans d'enquête, 250 témoignages. Et c'est un livre dont la lecture nous a beaucoup ébranlé.
Et un état des lieux sans parti pris.
Sans parti pris.
Et ce qui est, à mon avis, la meilleure façon de montrer la réalité de l'élevage industriel aujourd'hui dans notre pays. Et puis, il y a aussi le prix décerné par Elvira Masson.
On va déguster sur France Inter.
Je plaisantais, Elvira, je vous ai demandé de remettre un coup de cœur.
Hors concours.
À un nouveau livre qui vous a particulièrement séduit cet automne 2025.
Séduit, captivé, c'est Népal Récits intimes et recettes uniques, un livre de Tiana Sall chez Mango Éditions. Alors j'y captivais vraiment, c'est le mot, c'est une plongée qui m'a vraiment séduite et émue dans la cuisine de ce petit pays enclavé entre l'Inde au sud et la Chine au nord, sur la chaîne de l'Himalaya, un pays encore très agricole, 80% de la population vit encore aujourd'hui de l'agriculture, à la cuisine très végétale, fondée sur les légumes et les légumineuses, une cuisine de plaine et évidemment d'altitude, une mosaïque de climat donc, à l'identité forgée, grâce à cette position particulière de carrefour entre l'Inde et le Tibet, où les momos, les fameux raviolis tibétains sont pour ainsi dire un plat national, aux côtés du dal bhat, lentille et riz, inspiré du tali indien. Ce livre est avant tout un formidable répertoire de recettes qui nous sont méconnues et parfois aussi un petit peu familières, qu'on a envie d'essayer à la maison, alors immédiatement. Le badam sandeko, une salade de cacahuètes citronnées aux épices, les pakodas, qui sont des beignets croustillants de légumes qui évoquent un peu les pakoras indiens, le kwati, vous avez remarqué François-Régis le kwati, non?
Mais le kwati, je l'ai, figurez-vous... Cuisiné pas plus tard que cette semaine, c'est une soupe aux neufs légumineuses avec un peu de cumin, un peu de curcuma, c'est que des protéines, c'est 100% végétal et je me suis régalé avec cette soupe de légumes secs.
Il y a aussi les rôtis ou galettes de sarrasin qui nous rappellent que longtemps au Népal, la culture du riz était minoritaire et réservée aux grandes occasions. L'alimentation du quotidien privilégiant des céréales plus résistantes comme le millet, le maïs, le sarrasin qui est vraiment la petite graine himalayenne. Il y a plein de choses que j'ai envie de goûter. Moi, le dido, c'est la polenta de sarrasin, puis une soupe d'herbe, tous les achars, mais côté sucré, il y a des trucs formidables. Le suji, ko halwa, semoule à la cardamome, le gutpak. Une douceur faite de farine, lait, noix, sésame, cardamome, noix de coco râpée. À chaque fois, Tiana introduit la recette par un petit texte vraiment très intéressant, passionnant. Mais au-delà des recettes, ce livre est aussi un récit intime et émouvant. Celui que Tiana nous livre avec beaucoup de pudeur de son histoire, celle d'une enfant népalaise, adoptée à l'âge de 7 mois par une famille française aimante. Celle d'une jeune femme qui révèle ses failles d'adolescente, mal-être, dépression sur fond de troubles du comportement alimentaire. En 2015, un violent tremblement de terre frappe l'Himalaya. Les morts s'accumulent et Tiana pense à sa famille biologique qu'elle ne connaît pas. Il lui faudra quelques années encore avant de partir à sa recherche. Elle la rencontre en visio, post-Covid, puis prend son billet pour Katmandou. Bouleversée par les émotions qui la traversaient alors, elle éprouve le besoin d'un projet auquel se raccrocher. Elle appelle ça sa bouée de secours psychique. Elle est journaliste culinaire, on la connaît bien dans l'émission.
Et oui.
Elle a travaillé avec nous à nos côtés. Entre deux portes de studio, elle raconte quelques bribes de son histoire, de son voyage au pays des origines, à mon voisin de gauche, un certain François-Régis Gaudry.
Oui.
Et c'est votre enthousiasme, François-Régis, qui lui a donné...
Pardon, on parle au casque, en fait, excusez-moi.
On parle fort au casque.
Oui.
Et c'est votre enthousiasme et peut-être vos mots d'encouragement qui lui ont donné une partie des ailes qui lui manquaient encore un tout petit peu pour transformer ses recherches et son carnet de notes en ce livre si finement illustré par Marielle Gaudry. Ah. Votre sœur.
Oui, mais alors j'y suis pour rien.
Non, mais on sait que vous y êtes pour rien. Excellente photographe. Tiana ne prétend pas livrer un livre encyclopédique sur le goût du Népal. C'est son goût à elle, de ce qu'elle ressent et de ce qu'elle comprend du Népal, avec des recettes dans lesquelles certains produits inaccessibles en France sont remplacés par d'autres, plus accessibles, pour que nous toutes et tous puissions faire l'expérience de cette cuisine. Et je la cite pour finir. « La cuisine népalaise résiste aux effets de mode. Elle n'a pas été lissée pour plaire. » Elle reste profondément locale, humble, parfois rugueuse, toujours sincère. Une cuisine de terroir et de mémoire à découvrir autour d'un feu, dans une cuisine sombre, sur un tabouret bas, là où la parole circule en même temps que la nourriture. Grâce à Tiana Sall, partie à la rencontre de son histoire, la parole népalaise circule et sa cuisine nous est offerte en partage.
Népal, récits intimes et recettes uniques aux éditions Mango de Tiana Sall.
Bravo. Merci. À elle.
Jean-Marc Mouillac. L'auberge de Cadouin, c'est aussi la nouvelle aventure d'un centre d'éducation populaire à l'alimentation. Racontez-nous.
Ben, c'est s'attaquer aussi aux citoyennes. Donc, c'est faire ce centre d'éducation populaire à l'alimentation, c'est faire de la formation auprès de toute la restauration collective de France, mais aussi s'attaquer aux citoyens et leur donner les outils pour être autonomes. Et peut-être arrêter de prendre des caddies pour aller dans des grandes surfaces.
Et se bourrer de produits ultra transformés.
Voilà, et créer aussi une logistique qui fait qu'on peut se retrouver avec un panier de légumes et des céréales, des légumineuses et une viande d'éleveur à côté de chez soi, peut-être dans une caissette qui se retrouvera après cette formation et un lieu où les citoyens pourront se réapproprier cette alimentation et cette autonomie. Mais pour ça... eh bien, on est en train de créer quelque chose, comme on l'a fait au départ sur la partie restauration collective. Et donc là, c'est à vous, tous les citoyens, de vous prendre en main et de réapproprier, de reprendre ce pouvoir. Parce que ça, c'est un acte politique, manger. Moi, j'ai souvent été engagé politiquement, mais j'ai trouvé que je changeais beaucoup plus les choses en cuisinant qu'en mettant des trucs dans les boîtes aux lettres. Donc,
dans les urnes, vous voulez dire ?
Non, pas les urnes. Les urnes, enfin, je crois encore à ça, un petit peu, mais je trouve que on est plus costaud et plus fort. La Dordogne est autonome en énormément
de filières,
donc l'autonomie sur les farines, les légumineuses, on est autonome. Donc ça, et en semences paysannes, ça veut dire que c'est du vivant, c'est pas des formules F1 qui repoussent tous les ans. On voit bien que là, on a besoin de ça. Il y a plein d'élevages qui font de belles choses en Dordogne. Et donc c'est à nous, citoyens, à s'organiser, à être ensemble et à se reprendre ce pouvoir face à ceux qui sont là uniquement pour le fric.
Et dans le Centre d'éducation populaire à l'alimentation, le CEPA, que vous avez fondé à l'abbaye de Cadouin, les familles peuvent gagner en autonomie en participant à des ateliers, précisément. Alors moi, j'adore ce programme. Le samedi 8 novembre, c'est passé ça, hein ?
Oui.
Il y avait un atelier bûche de Noël. Le samedi 15, lactofermentation ?
Oui.
C'était hier, absolument. Le samedi 22, la semaine prochaine, les plats végétariens pour les fêtes.
Oui.
Intéressant. Et il va y avoir, comme ça, beaucoup d'ateliers, effectivement, pour se rééduquer à la cuisine populaire.
Il faut aller sur le site des Loasso du collectif Épée dans le plat, et vous avez tout en ligne. Et après, vous pouvez tous aussi, on est 800 à peu près, si vous voulez prendre des parts sociales à la SKIC, nourrir l'avenir, eh bien, on va mettre encore plus le bazar au niveau national.
Voilà. Est-ce que vous avez envie, cher public, d'écouter une vraie belle chronique à la noix ?
On va déguster sur France Inter.
Alessandra Pierini adore les noix, et surtout la noix du Périgord.
Absolument. Dans la famille, d'ailleurs, des fruits à coque, c'est aussi la plus française,
et
la
oui,
plus
c'est...
terroir,
et
la
c'est
plus
une Italienne qui
protégée.
Parle.
Et donc, parce que en France, il y a bien deux AOP. Une, il faut la nommer, c'est celle de Grenoble, qui c'était même la première AOC fruitière de France créée en 1938. Et puis, il y a la noix du Périgord, qui est la grande fierté de la région, qui est venue un petit peu plus tard, en 2002, avec ses variétés bien locales, comme la Corne, la Grandjean, la Marbeau. Et ici, en Périgord, les noyers font vraiment partie du paysage depuis des siècles. On disait autrefois que l'huile de noix donne l'apparence de bouillon à l'eau chaude qui trempe sa soupe. C'est dire que la noix ici a toujours été synonyme de richesse, même dans la simplicité. Et puis la noix, si vous voulez, si on veut vraiment bien la choisir, quand elle est encore dans sa coquille, il faut qu'elle ait un peu de poids. Donc si elle est légère, si elle est sèche,
elle entend un peu trop
sécher, on entend le cerneau se balader dedans, donc c'est pas bon signe. Et par contre, si on veut l'acheter sous forme de cerneau, vaut mieux éventuellement l'acheter sous vide. Il faut qu'il soit bien blond doré, charnu, avec un parfum doux de beurre frais, légèrement boisé. Et puis, il n'y a pas que la noix qui est bourrée d'oméga 3, d'oméga 6, qui est plein de trésors nutritionnels. On peut aussi avoir l'huile de noix.
Ah ouais.
Et d'ailleurs, on est très gâtés ici sur le festival, parce que on a juste en face, donc, de la librairie où je dédicace les livres, il y a la noix patiente.
Ça, c'est vraiment une huile que j'ai découverte il y a quelques années, la noix patiente, qui font vraiment une remarquable huile de noix, pas trop torréfiée justement,
pas trop,
assez vierge, avec beaucoup de subtilité et de longueur en bouche.
Tout à fait, qui a même un petit goût de gâteau, de revenez-y. C'est une huile, bien sûr, 100% périgourdine, que moi j'utilise surtout au petit déjeuner, dans un fromage blanc, dans un yaourt nature, dans une salade tout simplement. Et il y a aussi des ouvrages donc sur le festival. Il y a d'abord la noix, dans la belle collection des éditions de l'Épure, 10 façons de la préparer de Joël Dagnès. Donc, 10 bonnes façons d'adopter la noix en cuisine. Et puis, il y a une encyclopédie culinaire de chez Flammarion. C'est le grand livre des noix, où Julie Schwepp parle donc des fruits à coque en général, et de la noix en particulier. Et sur la noix, il y a bien une vingtaine de recettes, très original, je dirais, donc du beurre de noix, des chutneys, des purées, des pâtes à tartiner, le fameux vin de noix. Et donc, il y a ces deux livres à croquer pour découvrir tout ce qui se cache sous la coque de la noix.
Vive la noix avec Alessandra Pierini. Et Alessandra, vous donnez rendez-vous à notre public tout à l'heure à 14h à l'Espace Démo pour un atelier de recettes de tagliatelle. Et vous êtes italienne, faut pas renier évidemment vos origines. Mais pas à la noix, mais à la...
Non, à la châtaigne.
Tagliatelle à la châtaigne. Très beau atelier de cuisine à 14h. J'en profite pour dire qu'Elvira, vous serez également en dédicace pour votre livre Cuisine pour un... aux éditions du Seuil, juste après.
Dès qu'on rend l'antenne, je file, j'y serai.
Eh bien écoutez, ça fait très plaisir. Où se trouve Théa ? Bonjour Théa.
Bonjour.
Vous avez été sélectionnée. J'espère que vous avez votre brevet de dégustation pour goûter une petite surprise sucrée que nous a apporté Jean-Marc Mouillac. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Ben écoutez, c'est vraiment excellent. Moi qui suis vraiment quelqu'un d'épicurien, je dirais, là je me suis régalée. C'était vraiment un honneur pour moi de goûter ça. Mm-hmm. C'est vraiment un dessert qui est très gourmand, notamment avec des notes de caramel. Mais en fait, c'est tellement bien fait que c'est gourmand et à la fois c'est très léger et très aéré. Je trouve ça très aérien et c'est vraiment un pur délice.
Il va falloir devenir critique gastronomique, Théa.
Mais avec grand plaisir.
Dites-moi, quels ingrédients vous pourriez identifier dans ce succulent rocher, disons-le ? Ils sont au nombre de 3, ces ingrédients. C'est un jeu d'enfant pour faire cette recette ultra gourmande.
Alors tout d'abord, je dirais le caramel.
Alors, on peut dire sucre, ouais.
Oui.
Qui a caramélisé.
C'est excellent. La noix peut... Enfin,
bravo, voilà. La noix.
Et... j'ai l'impression qu'il y a un peu de riz soufflé. En fait, c'est tellement léger que...
Jean-Marc ?
Mais c'est...
Ah oui, des notes de miel, ouais, peut-être.
Blanc d'œuf, sucre,
ah oui.
Noix.
En tout cas, c'est excellent, vraiment.
Blanc d'œuf, sucre, noix. Quelle proportion, Jean-Marc ?
On est à, la recette est en ligne, mais on est à peu près temps pour temps.
Il la connaît pas
juste,
par cœur.
Non, juste pour les noix, faut savoir que 3 enfants sur 4 ont des carences en oméga-3. Et que l'an dernier, les producteurs de noix sur la Dordogne étaient en grosse difficulté, et que dans toute la restauration collective, on voit arriver des noix de Pologne et de Chine. Donc, allez voir les gestionnaires dans les établissements et dites-leur que le marché public, il est pas bon.
Vous avez raison. Vive la souveraineté alimentaire. On a de superbes noix près de chez nous avec des cahiers des charges exigeants. Profitons-en. Donc, croquant aux noix, magnifique. Temps pour temps à peu près, la recette est sur franceinter.fr, on se régale. Hein,
il y a du rap ou pas ? Parce qu'on en a pas assez, nous. Tellement c'est bon.
Ouais, il nous en faut encore et on va en distribuer un peu à notre public. Il parle, il portrait tu vois, il dresse le portrait gourmand d'un grand écrivain italien très populaire en France. Un livre récent vient de sortir, c'est Le coup de cœur de Stéphane Solier.
On va déguster sur France Inter.
Stéphane Solier.
Alors, il s'agit de Eri De Luca, qu'on connaît très très bien en France. Hein. On le connaît pour son œuvre de romancier, de poète, son œuvre de traducteur, pour son militantisme d'extrême-gauche hein, durant les années de plomb, pour son engagement en faveur des déshérités, hein, jusque dernièrement pour les civils en Ukraine, pour son amour de l'alpinisme. On le connaît moins sous l'angle de la cuisine. Et je dis bien cuisine et pas gourmandise, parce que lui-même ne se définit pas comme un grand gourmet. Hein. Je ne suis pas un gourmet, de mes 5 sens, le goût est le moins éveillé. On pourrait donc se demander pourquoi il s'est versé dans un recueil de textes autour de la cuisine. En fait, ce texte a un titre original qui est Spizzichi e Bocconi, en italien, qui veut dire grignotage et boucher, mais l'expression a spizzichi e Bocconi, en italien, veut dire au compte-gouttes, en picorant. Et c'est vraiment à l'image de l'attitude alimentaire d'Eri De Luca. L'éditeur, lui, l'a traduit plutôt par récit de saveur familière, parce que sans doute il a été plus sensible à l'entreprise de remémoration qui a effectué l'écrivain. En fait, Eri De Luca propose sous une forme narrative assez singulière hein, qui mêle autobiographie, essais et fiction une série de chapitres emplis de souvenirs, de réflexions sur la nourriture et qui sont tous suivis sous forme de dialogue, de recommandations d'un ami nutritionniste mais aussi à la fin de recettes préférées de l'auteur, notamment des recettes familiales. En fait, ce qui m'a touché c'est que comme souvent chez De Luca tout est politique. Et on a vu dans cette émission que l'acte de manger était un acte politique. Le portrait qu'il dresse de lui-même dès sa préface est intéressant. J'appartiens à une époque alimentaire antérieure, fondée sur les faibles quantités et le manque de variété.
Il m'est resté dans la bouche un palais fruste, capable de distinguer le bon du mauvais, mais pauvre en nuances intermédiaires. J'ai des papilles du XXe siècle. L'écrivain engagé dans ce recueil transparaît à travers le souvenir d'une abstention volontaire de nourriture de 22 jours en 2000 en soutien à des détenus qui faisaient la grève de la faim, ou dans l'hommage qu'il rend aux osteriers qui sont des tavernes, ces osteriers de jeunesse, véritable refuge où se mêlaient étudiants et ouvriers autour d'un bon poulet où il n'y avait pas de télé et où on ne parlait pas de foot, dit-il. Mais la grande originalité et la force de ce recueil, c'est toute la religiosité qui imprègne étonnamment les souvenirs culinaires de l'auteur, que ce soit le rituel de la morue des vendredis de son enfance, ou bien celui des pâtes au ragout napoletano de Nonna Emma, la grand-mère d'Eri De Luca. Et je vous lis un extrait magnifique. À table, devant ce plat de pâtes au ragout, jamais avec du fromage qui était une insulte, j'étais assis bien sagement, mais intérieurement, je me tenais à genoux devant mon assiette. C'était ma portion de manne, de pain des cieux, préparée par deux prêtresses des fourneaux et leur rite nocturne. Ma bouche pleine gazouillait un cantique. Je n'ai pas un tempérament mystique, mais ce peu de religiosité qu'il m'a été donné d'avoir, je l'ai dégusté. Je l'ai eu sur la langue tous les dimanches de mon enfance. Et voilà comment les petites madeleines d'Eri De Luca construisent pas à pas sa recherche du temps perdu, un temps politique et mystique.
Très bien, vous nous rappelez les références de ce livre qu'on a très envie de s'avaler.
Récits et saveurs familières aux éditions Gallimard. Il a été publié en juin 2025.
Merci beaucoup. Il nous reste juste quelques minutes, Jean-Marc Mouillac, pour vous demander ce qu'il faut vous souhaiter pour la suite. Je sais que vous êtes en plein, après des décennies de combat, d'abord pour la restauration collective, vous avez été fonctionnaire, vous avez quitté la fonction publique, désormais vous êtes dans le privé, mais toujours pour militer en faveur de cette alimentation durable, pour tous, relocalisée. Le combat continue.
Mais je crois qu'il faut continuer énormément à mettre les pieds dans le plat. Je sais qu'il y a une alerte à faire auprès des citoyens et de tous les auditeurs, c'est que les projets alimentaires de territoire sont en grand danger par rapport aux subventions qui vont être coupées, voire anéanties, et que là-dessus, il faut que les citoyens et tous les politiques se mouillent vraiment, parce que si on détruit les PAT sur tous les territoires...
PAT,
projet plein alimentaire de territoire... Et donc c'est vraiment ça qui source la production et qui aide les producteurs sur tout le territoire. Et puis après adhérer au collectif Les Pieds dans le Plat. Plus on sera nombreux, mieux ça sera et plus on va mettre le bazar. Et prenez des parts sociales à la SCIC, Nourrir l'avenir, parce que derrière, eh bien, vous pouvez les récupérer si vous trouvez qu'on est trop. Il y a des gens qui m'ont dit un jour que j'avais une trop grande radicalité. Eh bien, maintenant, j'ai compris que la radicalité, quand même, c'était les racines, et que les racines, ça nous fait pousser des bonnes choses. Donc, j'aurai une radicalité qui augmentera, malgré quelques-uns qui sont pas d'accord, et on continuera.
Bravo. Et profitons d'ailleurs, hein, parce que c'est l'occasion de mettre les candidats aux municipales au pied du mur. On s'intéressera d'ailleurs à la question des cantines scolaires avec Marie-Pierre Membrive, qui a écrit un livre très intéressant. On va s'intéresser aux cantines scolaires dans l'émission. Qu'est-ce qu'elles deviennent? Est-ce que ça avance? Est-ce qu'on a des raisons de voir quand même un peu le verre à moitié plein, notamment grâce à des forces vives comme vous? Merci, cher Jean-Marc Mouillac.
Merci à vous, Léa.
L'auberge de Cadouin. Allez y faire un tour. Vous ne serez pas déçus. 19,50€ entrée plat dessert avec des produits entièrement bio, locaux, de très bons vins, un cadre absolument merveilleux, médiéval. Bref, il y a tout bénef à venir chez vous et prendre de belles leçons de cuisine populaire. Un grand, grand merci. Et merci à vous, cher public, pour votre accueil chaleureux et généreux. Merci au Festival du Livre Gourmand. Merci à la mairie de Périgueux de nous avoir si gentiment accueillis. Dimanche prochain, retour dans nos studios parisiens pour une émission entièrement consacrée à la très belle cuisine des lacs italiens. Reportage, recettes et dégustations avec mes compères Alessandra Pierini et Stéphane Solier. Vous serez en studio parisien avec nous à dimanche prochain. Si vous avez encore faim...